Seigneur, c'est à toi que nous avons voulu rendre un culte ce matin et c'est devant toi aussi que nous nous présentons en cet instant où nous voulons, Seigneur, plonger nos regards dans ta parole. Nous ne considérons pas ce moment comme étant un moment anodin, sans importance, mais nous comprenons bien qu'il est essentiel pour nous d'être en contact avec ta parole qui nous permet de te rencontrer, Seigneur Dieu, de faire une rencontre toujours plus abondante, toujours plus profonde avec toi, de recevoir tes paroles, d'entendre ta voix, de connaître ce que tu veux nous dire. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour chaque personne qui est présente dans cette église ce matin. Merci pour les cœurs de chacun que tu as disposés. Merci pour ton amour, pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit qui est ici et qui dirige toutes choses pour cet instant. Nous voulons te prier, Seigneur, de continuer à disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole. Et Seigneur, qu'elle porte un fruit abondant en nous. Merci parce que ta parole est la vérité et tu nous dispenses cette vérité. Amen. Amen. J'espère que vous allez bien. C'est l'église buissonnière aujourd'hui. Je ne sais pas où ils sont tous passés. Tant pis, nous allons ensemble ouvrir les Écritures et nous allons lire dans l'Épître aux Colossiens. Donc nous sommes toujours dans la série « La maturité chrétienne », la série sur le chrétien mature. Nous avons vu la première étape, nous avons vu que le chrétien mature est un chrétien qui connaît la bonne référence. Il sait que la référence de sa foi, c'est Jésus. Il a pris Jésus comme référence de sa foi. Il n'a pas pris les hommes, il n'a pas pris lui-même. Il a pris Jésus comme la référence, comme le chef de sa foi. Deuxièmement, on a vu que le chrétien mature est capable de gérer sa liberté. Dieu lui donne une liberté qu'il est capable de gérer, d'administrer. Puis troisièmement, on a vu que le chrétien mature est un chrétien qui est capable de rechercher ce qui édifie. Rechercher ce qui l'édifie lui-même, rechercher ce qui édifie les autres, rechercher ce qui édifie l'Église. Et aujourd'hui, nous allons aller une étape plus loin. Et donc, nous allons lire dans Colossiens, et là, nous allons lire deux passages. Le premier dans Colossiens, chapitre 1. Colossiens 1, 9 à 10. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Et un autre passage dans toujours l'Épître aux Colossiens, mais là, le chapitre 4 et le verset 12, Colossiens 4, 12, uniquement ce verset-là. Qui nous dit « Épaphras, qui est aussi l'un des vôtres, vous envoie également ses salutations. En serviteur de Jésus-Christ, il combat sans cesse pour vous dans ses prières pour que vous teniez bon, comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. » Amen. Donc dans cette série, nous sommes à une étape suivante et aujourd'hui, nous allons ensemble nous arrêter sur le thème « La préoccupation suprême du chrétien mature, c'est la volonté de Dieu. » La préoccupation suprême du chrétien mature, c'est la volonté de Dieu. Première chose, la chose principale qui préoccupe qui inquiète, qui tracasse, qui est important pour un chrétien mature, c'est la volonté de Dieu. Dans l'épître aux Colossiens, nous la connaissons bien, c'est une épître qu'on lit souvent, une épître qui a été écrite par l'apôtre Paul alors qu'il était en captivité, alors qu'il était en prison, et une épître qui a pour centre, pour parole fondatrice, parole de cœur, nous avons tout pleinement en lui. Parce que l'église de Colosse était une église qui était tentée de dévoyer et de chercher son salut ailleurs qu'en Christ, dans d'autres doctrines questionnantes sur lesquelles on ne va pas s'arrêter ce matin. Et donc il y a un thème fort dans l'épître aux Colossiens, nous avons tout pleinement en lui. Pas besoin d'autre chose que Christ, pas besoin d'un autre sauveur, d'une autre doctrine, d'un autre évangile, nous avons tout pleinement en lui. Et on a lu dans cet épître deux prières qui sont faites. La première, qui est la prière de l'apôtre Paul, qui dit « Je prie pour vous ». Et la deuxième, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle, mais qui dit « Épaphras prie pour vous ». Deux prières, deux hommes de Dieu, deux serviteurs de Dieu qui ont fait une prière à l'intention des Colossiens. On sait tous que quand on souhaite quelque chose à quelqu'un, on lui cède souvent la chose qui nous semble la plus importante pour lui. Souvent, on va dire à quelqu'un, à la nouvelle année, une bonne santé, par exemple. Parce qu'on sait que c'est important, la bonne santé, mais on souhaite parfois beaucoup de bonheur pour des gens qui se marient, on va dire beaucoup de bonheur. Parce qu'on souhaite aux gens ce qu'on sait essentiel pour eux. Quand on les connaît, quand on sait qui ils sont, on leur souhaite ce qui nous semble essentiel, ce qui nous semble important. On ne dit pas à quelqu'un, je te souhaite de trouver de nouveaux enjoliveurs pour ta voiture. On ne dit pas à quelqu'un, je te souhaite d'avoir un papier toilette plus agréable. Vous ne dites pas ça, vous ? Non, eh oui, heureusement. On ne dit pas ça. On souhaite aux gens des choses essentielles, des choses importantes. Et là, on a dans ces deux textes-là des prières qui nous montrent ce qui était important pour ces deux serviteurs de Dieu, ce qui était essentiel dans leur prière pour les Colossiens. Et pour les deux, c'était que les Colossiens connaissent, comprennent et vivent la volonté de Dieu. Qu'ils vivent la volonté de Dieu. Ces prières doivent nous inspirer parce qu'elles nous montrent vraiment ce qui est capital, ce qui est essentiel, ce qui est important pour la vie du chrétien mature, c'est la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Premièrement, on a l'apôtre Paul qui, dans le chapitre 1, prie pour les Colossiens et il dit « Afin que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Je prie afin que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » La volonté de Dieu, c'est-à-dire ses desseins, son plan, ses préceptes auxquels nous sommes censés nous conformer pendant toute notre vie, être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Et comme on l'avait vu la dernière fois, quand on parle de la connaissance de Dieu dans la Bible, on ne parle presque jamais de la connaissance intellectuelle, quand on parle de connaître Dieu. On trouve dans la Bible des expressions du genre « connaître les Écritures ». Quand on dit « connaître les Écritures », ça veut dire connaître le texte biblique, connaître l'enseignement biblique. Mais quand on dit « connaître Dieu », on parle plus d'une connaissance intime, personnelle. Quand on dit « je connais quelqu'un », ou comme quand la Bible dit « Adam connut Ève », ça ne veut pas dire qu'il a réfléchi sur elle. Ils se sont connus, ils se sont rencontrés. Donc, la connaissance de Dieu dans la Bible, ce n'est pas juste le cerveau. C'est réellement lorsque notre être adhère à Dieu et à la connaissance de sa volonté. Dans le texte de Colossiens 1, on voit que l'apôtre Paul insiste pour qu'il soit rempli de la connaissance de sa volonté. Pas un tout petit peu, pas une petite mesure, pas une petite pincée de sel au cas où. Rempli des chrétiens, rempli de la connaissance de sa volonté. Et le texte nous montre que le but de cette connaissance, ce n'est pas simplement une pure passivité, de dire, voilà, je connais la volonté de Dieu. C'est pas juste d'admirer cette volonté pour rester dans l'immobilisme et pour, en rester là. C'est connaître la volonté de Dieu pour nous y conformer dans notre conduite, dans notre comportement, par une vie juste, par une vie qui plaît à Dieu, une vie qui réjouisse son cœur. Comme conséquence de cette bonne conduite, nous dit le même texte, puisqu'il dit « Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur ». Donc, la connaissance de la volonté de Dieu que nous avons nous amène à avoir une conduite digne du Seigneur. Et, pour continuer, car vous porterez comme fruit toutes sortes de bonnes œuvres. Et apportez comme fruit toutes sortes de bonnes œuvres. Et puis, il continue, et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Donc, il y a là, si vous voulez, un cercle vertueux. C'est-à-dire que, premièrement, Dieu nous donne de la sagesse et de l'intelligence spirituelle. C'est pas juste l'intelligence d'avoir lu des livres ou d'avoir réfléchi, d'avoir regardé des chiffres et des lettres ou motus à la télévision. C'est l'intelligence, la sagesse spirituelle qui vient de Dieu, que Dieu donne par son esprit à ses enfants. Premièrement, Dieu nous donne cette sagesse, cette intelligence spirituelle. Ensuite, nous en arrivons à connaître pleinement sa volonté, à être rempli de la connaissance de sa volonté, à être capable de mobiliser ça pour savoir ce que Dieu veut, là, maintenant, dans ce que je fais, dans la décision qui va arriver dans quelques minutes, dans la réaction que je dois avoir par rapport à ce qui se passe, parce qu'on est rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Et ensuite, cette connaissance de la volonté de Dieu va nous amener à avoir un comportement juste et agréable devant Dieu. C'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose, mais comme chrétien mature, rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, je sais réagir selon la volonté de Dieu. Et donc, nous allons développer un comportement juste et agréable devant le Seigneur. Et comme première conséquence, on voit que une première conséquence est que nous portons du fruit en toutes bonnes œuvres. Nous portons du fruit, nous portons un fruit abondant, un fruit qui consiste en de bonnes œuvres. Et comme deuxième conséquence, toujours au verset 10, nous connaissons davantage le Seigneur. Donc vous voyez le cercle vertueux. Le cercle vertueux qui nous amène à être toujours plus connectés à la volonté de Dieu et toujours plus capables de la mobiliser dans notre vie de tous les jours. Nous avons besoin de cette intelligence spirituelle, de cette sagesse spirituelle pour être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette sagesse. C'est Dieu qui nous donne cette intelligence. Cette sagesse qui va nous rendre capables de discerner la vérité, de discerner ce qui est bien, ce qui est mal, de discerner ce qui est agréable à Dieu. Cette sagesse, nous la tirons, bien sûr, d'une pleine connaissance de l'œuvre du salut, des grâces qui sont les nôtres. C'est une sagesse que nous recevons de Dieu, et c'est une intelligence qu'il donne aussi, qui est une intelligence différente de l'intelligence mondaine, qui est une intelligence enténébrée, comme on dit. Une intelligence enténébrée, obscurcie. Quand on voit le monde dans lequel on vit et qu'on observe les gens vivre, on se rend compte que l'intelligence, la réflexion humaine n'est pas juste quelque chose de normal. Il y a aujourd'hui, dans notre monde, un assombrissement de l'intelligence de l'homme. L'homme se fourvoie de plus en plus dans le mal, dans le péché. L'intelligence est déformée, nous sommes tordus dans notre intelligence. C'est ce qui on peut voir ça dans nos relations à la télévision, combien notre mentalité est obscurcie par les ténèbres qu'il y a sur cette terre. Mais donc l'enfant de Dieu, il reçoit une intelligence spirituelle. Pas l'intelligence obscurcie mondaine, mais une intelligence spirituelle, pour réfléchir selon Dieu, pour réfléchir selon la volonté de Dieu, pour s'intéresser à ce qui plaît à Dieu. Une intelligence qui nous permet d'avoir une vue claire sur la vie. Est-ce que vous savez à quel point c'est une richesse, ça ? Avoir, rien que ça, quels que soient les problèmes qu'on a dans notre vie, avoir une vue claire sur la vie. c'est tellement précieux. Être capable, quand tu es devant ta vie, devant ce qui se passe, devant les événements, d'avoir une vue claire. Une vue claire. Pas être confus, ne sachant pas qu'est-ce que faire. Avoir une vue claire, une capacité de comprendre ce qui est bon, ce qui est mauvais. Peut-être qu'on n'est pas parfait, c'est évident qu'on n'est pas parfait. On a une vue claire. On sait que ça, c'est bon. On sait que ça, c'est mauvais. Et on peut se conduire avec cette intelligence. Les gens qui sont en souffrance, souvent, sont des gens qui n'arrivent plus à voir clair. Quelle grâce. Une intelligence qui nous permette de voir la ligne de conduite que nous devrions suivre. Une réflexion qui nous permette de savoir ce qui serait bon dans telle situation. Une sagesse pratique pour vivre selon Dieu. Une sagesse pratique pour vivre selon Dieu. Vous avez déjà réfléchi au nombre de choix qu'on fait sur une journée? On ne s'en rend pas compte. Mais du moment où on se lève et où on choisit des habits, jusqu'au moment où on va se coucher, notre vie n'est qu'un ensemble de choix, de décisions, de réactions à ce qui se passe. Rempli de la connaissance de la volonté de Dieu par cette sagesse et cette intelligence spirituelle. Cette connaissance de la volonté de Dieu vient donc directement de ce renouvellement de l'intelligence. Vous vous rappelez qu'on a longuement parlé de ça il y a quelques 2 ans, du renouvellement de l'intelligence. C'est vraiment ce que Dieu fait dans le croyant. Quand on rencontre Jésus, ça ne s'arrête pas là. Quand on rencontre Jésus, c'est là que ça commence. Et que Dieu commence à faire un travail en nous, notamment pour renouveler notre intelligence. Pour que nous ne réfléchissions plus comme dans le monde, pour que nous ne réfléchissions plus avec une intelligence obscurcie, enténébrée, mais que nous soyons capables de réfléchir selon Dieu, comme Dieu, pour plaire à Dieu. Et souvent, les nouveaux croyants, les nouveaux convertis, quand on essaye de les faire grandir, c'est sur ces choses-là qu'on doit travailler avec eux. Parce que quand il se passe quelque chose dans l'église, par exemple, ils ont encore des réactions comme avant. Ça me fait penser à un truc que Marc m'avait raconté. Mais ce n'était pas un nouveau converti. Bon, t'as compris? Oui, t'as compris. Mais ils ont encore des réactions comme avant. Alors que l'intelligence que nous recevons de Dieu, l'intelligence éclairée que nous recevons de Dieu, nous permet de réfléchir d'une façon différente, d'avoir des réactions différentes et de connaître la volonté de Dieu. Et vous connaissez ce verset qui est, bien sûr qu'on en parle tout le temps, mais combien c'est important. Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Une intelligence renouvelée, pour être capable de connaître la volonté de Dieu et de savoir ce qui est bon, agréable et parfait devant lui. Voilà une caractéristique du chrétien mature. Éphésiens 5, 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Le chrétien mature sait comprendre la volonté du Seigneur. Il comprend la volonté du Seigneur. L'apôtre Paul priait. Quand vous écrivez une carte à quelqu'un, vous ne faites plus trop ça. Mais bon, à l'époque, nous, hein Francis, on écrivait des cartes, nous. Ils ne connaissent pas, ils sont jeunes. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà. Bon. Mais quand vous écrivez une carte, les premiers mots que vous écrivez sont des mots justement à l'attention de la personne. J'espère que tu te portes bien, que ta santé est bonne. C'est vrai, hein, Yvan, quand vous écrivez des cartes, il y a des souhaits, des vœux vraiment qui concernent la personne. De la même façon, quand l'apôtre Paul commençait ses lettres, il ne disait pas « Je vous souhaite d'être riche, je prie pour que vous soyez riche ». Il ne dit pas « Je prie pour que vous n'ayez pas de problème, je prie pour que tout soit toujours parfait dans votre vie, je prie pour que vous ayez la plus belle voiture ou je prie que vous soyez toujours élégant comme certains à l'église ce matin ». Il dit « Je prie pour que vous connaissiez la volonté de Dieu ». Ça veut dire que ça, c'est important pour nous. Et deuxièmement, dans la même épître, qui ne fait pas 40 chapitres, on a la prière d'Épaphras. La prière d'Épaphras. Épaphras, c'est en fait l'évangéliste qui a fondé l'église de Colosse. C'est le fondateur, le missionnaire qui a d'abord gagné les âmes et puis qui est devenu le responsable de cette église-là. C'est sa ville d'origine. Épaphras est d'origine païenne, c'est pas un juif. Et donc, il faisait partie de l'équipe de Paul. Vous savez qu'à l'époque, il fonctionnait dans les ministères par équipe apostolique. Donc, l'équipe apostolique conduite par Paul, autour de laquelle il y avait plein de gens. Hein. Timothée, Tite, Épaphras et tous les autres. Et donc, Épaphras faisait partie de cette équipe de Paul. Et il semble qu'il a travaillé dans pas mal de villes, notamment Colosse, mais d'autres villes, comme la Odyssée. Des villes très proches les unes des autres. Et Épaphras, on le sait par d'autres épîtres, avait rejoint l'apôtre Paul pour lui demander conseil concernant des difficultés qu'il y avait dans l'église de Colosse. Comme c'était un peu son référent, son responsable, il est allé lui demander conseil pour gérer les difficultés qu'il y avait dans l'église de Colosse, ce qui fait qu'il était avec Paul au moment où il écrit. Et parce qu'il avait partagé sa captivité pour le rencontrer. C'est dans Philémon qu'on apprend ça. On apprend qu'Épaphras a été en prison pour pouvoir parler à Paul et qu'il a été emprisonné avec lui. Et alors, vous avez lu le verset 12 du chapitre 4. On voit dans ce verset-là l'intensité de l'intercession d'un père spirituel pour ses enfants. Épaphras, Colossiens 4, 12. C'est pas. On voit à quel point il était préoccupé par cette église qu'il avait fondée, dont il était responsable. Il dit, en serviteur de Jésus-Christ, Épaphras, il combat sans cesse pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon, comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Il prie pour que vous teniez bon, comme des adultes, comme des chrétiens matures, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Quelle puissance de... Vous voyez que c'est un seul verset, il aurait pu dire « il prie pour ça, et pour ça, et pour ça, et pour ça ». Non, il prie pour que vous soyez des adultes dans la foi, toujours prêts à accomplir la volonté de Dieu. C'est donc un critère essentiel pour le croyant, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut ? Il ne prie pas pour que tout aille bien, il ne prie pas pour qu'il soit adulé par le monde, pour qu'il soit content même, ou épanoui. Il ne prie pas pour ça. Il ne prie pas pour qu'il soit riche. Il prie pour qu'il soit capable d'accomplir pleinement la volonté de Dieu. Des chrétiens disposés et capables de faire la volonté de Dieu. Et c'est possible. Et c'est possible. Et c'est possible pourquoi ? L'Épître nous dit pourquoi c'est possible. L'Épître nous explique pourquoi est-ce qu'il est possible d'être un chrétien mature, rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu. Elle nous le dit. Parce que nous avons tout pleinement en lui. C'est ça la justification. C'est pas parce qu'on est plus intelligent que les autres, plus compétent, plus... C'est parce que nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout reçu pour être capables de vivre cela. Il nous a arrachés aux ténèbres. Il nous a permis de recevoir le pardon de nos péchés, nous dit Colossiens. Il nous a réconciliés avec lui, Dieu, par le sacrifice de son Fils. Il a fait de nous des membres de son Église, qui est son corps. Nous avons été circoncis de la vraie circoncision, qui consiste à être dépouillés de l'homme livré à lui-même. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême et il nous a ressuscités avec lui. Il nous a donné la vie éternelle et nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Colossiens 2:10, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. Et c'est pour ça, c'est sur base de ça que nous pouvons aspirer à être des chrétiens matures qui vivent complètement la volonté de Dieu. Dans ces deux prières, les prières de ces deux responsables, on voit vraiment qu'il ne vise, il ne prie ni plus ni moins que pour une pleine maturité spirituelle des Colossiens. Et le cœur de cette maturité, c'est la connaissance de Dieu et de sa volonté. La connaissance de Dieu et de sa volonté. Alors en théologie, il y a deux types de volonté de Dieu. Quand on parle de la volonté de Dieu, il y a d'abord la volonté décrétive de Dieu et ensuite la volonté préceptive de Dieu. La volonté décrétive de Dieu, ce sont les plans de Dieu et les décrets de Dieu pour l'humanité. C'est le plan caché de Dieu pour l'humanité. C'est ce que Dieu a prévu avant la fondation du monde, les choses telles qu'il les a décidées. Ce sont les événements que Dieu a choisis qui arrivent dans ses décrets, dans son conseil, dans sa sagesse, dans sa souveraineté. Ce sont les choses que Dieu a choisies qui arrivent. Dieu a une volonté et cette volonté s'exprime dans différents événements, différents décrets, différentes décisions qu'il a installées dans l'univers, la volonté décrétive de Dieu. Et puis, il y a la volonté préceptive de Dieu. La volonté préceptive de Dieu, ce sont les commandements de Dieu, la volonté exprimée, révélée de Dieu à notre égard. Les commandements, les préceptes, les ordonnances, les avertissements, les interdictions, les jugements que nous trouvons dans la parole de Dieu. Dieu a une volonté qui est une volonté qui concerne l'humanité, mais une volonté secrète qu'on ne connaît pas. Mais il a aussi une volonté préceptive, une volonté révélée, expliquée dans sa parole et que nous pouvons connaître. Vous connaissez ce verset que Francis aime beaucoup aussi. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont aux hommes, sont à nous et à nos enfants. Et alors, dans la volonté décrétive de Dieu, il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu, et puis la volonté permise de Dieu. Ça veut dire qu'il y a les choses que Dieu a voulu efficacement accomplir, c'est vraiment sa volonté, c'est ce qu'il veut. Et puis il y a les choses que Dieu permet. La volonté parfaite est la volonté permise de Dieu. Alors vous voyez, on a un exemple, par exemple, de cela dans 1 Samuel, lorsque le peuple d'Israël demande un roi. Il demande un roi et Dieu n'est absolument pas d'accord avec ça. Ce n'est pas sa volonté parfaite. Malgré qu'avant même que cela n'arrive dans la loi, il y avait déjà des préceptes pour au cas où il y aurait un roi, Dieu dit clairement à Samuel que ça ne lui plaît pas, cette volonté des Israélites, et pourtant, il permet, voyez. Donc il y a la volonté parfaite, ce que Dieu veut dans son plan éternel, ce qui serait son plan à lui, et puis il y a les choses que Dieu permet. Pour notre vie, il y a donc des moments où nous avons besoin de la volonté de Dieu pour faire des choix et pour comprendre le plan de Dieu pour notre vie. Francis a lu tout à l'heure ce traité de la CMM qui termine par « Et aide-moi à entrer dans le projet que tu as pour ma vie. » Puisque Dieu a aussi un projet pour notre vie dans sa volonté décrétive dans laquelle nous sommes appelés à entrer. La volonté de Dieu pour les grands choix que nous faisons. Nous ne faisons pas ces choix-là de façon négligente, mais nous cherchons la volonté de Dieu. Nous demandons que Dieu nous éclaire, qu'il nous donne sa sagesse, son intelligence. Des grandes décisions de nos vies doivent être, comme disait un serviteur de Dieu, les grandes décisions de nos vies doivent être arrosées de prières. Arrosées de prières. Des choix dans lesquels on s'est assis, on dit « Seigneur, éclaire-moi ». Donne-moi ton intelligence, donne-moi ta sagesse, montre-moi la voie, aide-moi à choisir ce qui sera bon pour moi, ce qui sera bon dans des choix de mariage, de déménagement, de profession, tant de choix, les grands choix de nos vies. Nous avons besoin de nous arrêter pour demander à Dieu son éclairage. La volonté de Dieu pour l'Église. Pour l'Église, par exemple. Si demain matin, on dit... on a une proposition pour que l'église de Jumet déplace sa salle au milieu de la place de la digue. On ne va pas dire oui ou non. On ne va pas dire c'est quoi, qu'est-ce que vous en pensez? On va prier, n'est-ce pas? Seigneur, quelle est ta volonté? Et dans le texte d'Apocalypse, on voit à quel point ça revient souvent. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Nous devons apprendre à écouter ce que Dieu dit. Comme évangélique, on a souvent tendance à avoir des projets, des idées qu'on a décidées, et puis à faire en sorte de tirer Dieu dans ce qu'on nous on a décidé. Vous voyez ? Donc on a déjà notre petite idée de ce qu'on voudrait faire, et puis on dit « Seigneur, je vais faire ça, bénis-moi ». Voilà. En 2016, on avait étudié ce qu'on appelle la domestication du divin. C'est-à-dire qu'on a tendance, comme humain, à vouloir domestiquer Dieu, rendre Dieu le petit toutou qui doit me suivre. Et donc, j'ai déjà choisi ce que j'allais faire. Je n'ai pas demandé à Dieu son avis. Je dis, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, allez, viens avec moi. Alors que parfois, il serait tellement plus sage de notre part de dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour notre Église, pour ce que nous allons faire, pour le projet que nous avons? Qu'est-ce qui te plaît, Seigneur, là-dedans? Qu'est-ce qui t'agrée? Qu'est-ce qui réjouit ton cœur là-dedans? Et souvent, nous avons tendance, au contraire, à facturer à Dieu des choses qu'il n'a jamais promises. Et donc, voilà, on dit, Seigneur, on va faire ça, s'il te plaît, bénis, sois d'accord, donne-nous tout ce dont on a besoin. Alors qu'on n'a pas cherché sa volonté. Quand on lit dans l'Écriture des grands apôtres comme l'apôtre Paul, on voit à quel point là, il y a des textes dans l'Écriture où l'apôtre Paul dit je demande à Dieu sa volonté pour telle chose. Ou à des textes où on a l'Esprit ne nous a pas permis de faire telle chose. C'est-à-dire que Dieu a une volonté ici et maintenant pour nous. Alors évidemment, quand on dit ça aux évangéliques, la première chose qu'ils disent, oui d'accord, mais bon, c'est pas comme si Dieu devait me dire si je dois choisir du beurre planta ou du beurre... Mais non, évidemment, c'est pas de ça qu'on parle. On n'a pas dit que c'est Dieu qui va dire de prendre ces pâtes-là et pas ces pâtes-là. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de l'orientation que Dieu veut donner à nos vies, que Dieu veut donner à la vie de l'Église. Nous devons être des hommes et des femmes qui cherchons la volonté de Dieu. Et notre frère Benoît, dans sa prestance, dans sa grandeur, avait apporté un message il y a quelques années sur comment connaître la volonté de Dieu. Il n'avait pas eu le temps de terminer, mais il avait parlé, il avait dit que Dieu parle au travers de sa parole, au travers des circonstances, au travers des gens qu'on rencontre. Voilà, vous vous rappelez de ça? Ouais, c'est ça. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes qui cherchons la volonté décrétive de Dieu. Ça, c'est demander, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi aujourd'hui, maintenant? Dans le choix qui est là devant moi, qu'est-ce qui te plaît? Et puis, on est aussi appelé, évidemment, à rentrer dans la volonté préceptive de Dieu. C'est-à-dire appelé à obéir à la volonté révélée dans sa parole. Et d'ailleurs, la meilleure façon d'entrer dans la volonté décrétive de Dieu, c'est d'être dans la volonté préceptive de Dieu. Ça veut dire que quand je m'astreins à respecter la parole révélée de Dieu, j'entre dans son plan. Vous comprenez? Mais si je désobéis à la parole révélée, je ne sais pas rentrer dans son plan. Donc, Dieu peut avoir un plan, par exemple, de bénédiction pour un aspect de notre vie. Mais si nous sommes désobéissants dans cet aspect-là de notre vie, il ne va pas commencer à nous bénir alors que nous sommes en désobéissance. Au contraire, on voit que les grands hommes de Dieu, dans l'Écriture, ce sont des gens qui ont, en fait, simplement obéi à la volonté de Dieu au cours de leur vie et qui, sans le savoir, sont rentrés dans le plan éternel de Dieu. Vous connaissez le verset qu'on a vu le premier dimanche de 2019 ? lorsqu'on a parlé de écrire notre histoire avec le Seigneur, on a parlé du verset qui dit qu'il a prévu d'avance des œuvres afin que nous les pratiquions. Donc c'est ça aussi l'enjeu, c'est d'entrer dans ces œuvres prévues d'avance. Donc nous sommes appelés à aussi prendre compte de la volonté préceptive de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour nos vies, la volonté révélée de Dieu? J'ai un conflit avec quelqu'un. Quelle est la volonté de Dieu selon sa parole? J'ai un problème de gestion d'argent. Je veux gérer mon argent. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Je veux gérer mes relations. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Je suis triste. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Je suis content. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Vous savez qu'il y a des paroles pour les gens qui sont tristes dans la Bible. Il dit que celui qui prie, que celui qui est triste, prie. Et que celui qui est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Il y a des paroles pour les gens contents et des paroles pour les gens tristes. Moi, je suis triste, alors je prie. Et vous, vous êtes content, alors vous chantez des cantiques. Donc, nous sommes appelés à aussi connaître la volonté précise. Qu'est-ce que Dieu veut? Mais vous savez, si on devenait des amis de notre Bible, on serait de plus en plus rempli de la connaissance de sa volonté. Parfois, dans des petites choses, dans des petits choix, on arrive à comprendre, ah, ça, c'est pas la volonté de Dieu que je parle comme ça, que j'agisse comme ça, que je décide ça. Et même dans les grands choix de nos vies, parfois, ou souvent, c'est la parole de Dieu qui va répondre. Tant et tant d'enfants de Dieu qui avaient des choix à faire et qui, un jour, en ouvrant la Bible, ont dit, ah, là, c'est Dieu qui me parle, c'est Dieu qui utilise sa parole pour me parler, pour me dire ce que je dois faire. Nous sommes appelés donc à adopter comme critère pour notre vie le critère de la volonté de Dieu. Le chrétien a changé de monde lorsqu'il a été sauvé. Il a changé de monde. Et en fait, notre vie chrétienne, elle commence à s'asseoir lorsque nous comprenons que nous avons changé de monde. Ça, parce que ça ne se voit pas. Vous êtes toujours les mêmes. Et tant mieux d'ailleurs, ne changez pas. Mais il y a un changement. La Bible dit, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. C'est ça, c'est un déménagement qu'on a vécu. Et dans ce déménagement, il y a un changement. Quand on déménage, c'est difficile de remettre les choses de la même façon qu'on les a mises dans l'autre maison. Parce que la chambre n'a plus la même forme, le living non plus, voilà. Donc il y a des choses qui changent dans ce déménagement. Et notamment ce qui doit changer dans le déménagement que nous avons vécu en passant des ténèbres au royaume de Dieu, c'est les critères sur lesquels nous évaluons nos vies. Les critères sur lesquels nous nous basons pour faire des choix. Avant, on disait, ça me plaît, ça me fait plaisir, alors je vais le faire. Avant, on disait, ça plaît à ma famille, ça plaît à mon entourage, ça plaît à mes proches, ça plaît à mon copain, à mes amis, à mes camarades. Avant, on disait, c'est conforme à la volonté de Dieu. On disait, c'est conforme à ce que la société demande. La société dit ça. Sous la pression de la société, on faisait des choix parce que c'est comme ça, tout le monde le fait. Tout le monde dit que c'est bien, qu'on peut le faire. La télévision le dit aussi. Et maintenant, nous en arrivons à un nouveau critère. Le critère du royaume de Dieu. Ça plaît à Dieu. Le nouveau critère, le critère de la volonté de Dieu. Est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Le critère de la volonté de Dieu. Alors nous avons commencé par une prière et nous allons terminer par une prière. On continuera la suite un autre jour. C'est une prière cette fois-ci de Saint François d'Assise. Les catholiques ont des gens extraordinaires dans leur rang. Saint François d'Assise, fondateur de l'ordre des franciscains, qui est donc né à Assise, c'est pour ça qu'on l'appelle François d'Assise. C'est marrant, hein. Qui a écrit une prière, qui s'intitule « Dieu Tout-Puissant, donne-nous d'agir selon ta volonté ». Et voici ce qu'il dit dans cette prière que nous pouvons faire nôtre aussi dans nos cœurs. Dieu Tout-Puissant, éternel, juste et bon, par nous-mêmes, nous ne sommes que néant et pauvreté. Mais toi, à cause de toi-même, donne-nous d'agir selon ta volonté, telle que nous la connaissons, et de toujours vouloir ce qui te plaît. Ainsi, nous deviendrons capables, intérieurement purifiés, illuminés et embrasés par le feu du Saint-Esprit, de suivre les traces de ton Fils. Notre Seigneur Jésus-Christ, et par ta seule grâce, de parvenir jusqu'à toi, très haut, qui est en trinité parfaite et très simple unité, vit et règne, et reçoit toute gloire, Dieu Tout-Puissant, dans tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur, donne-nous d'agir selon ta volonté. Dans le psaume 143, il est dit, c'est le psalmiste qui parle, qui dit « Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté. Apprends-moi à faire ta volonté. » Amen. Amen. Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi et faire nôtre cette prière de François d'Assise. Donne-nous de faire ta volonté. Seigneur, nous avons conscience que nous sommes tes enfants, nous ne sommes pas des gens sans Dieu, sans cité, nous sommes tes enfants, nous t'appartenons. Ton esprit est en nous et il crie Abba Père. Seigneur, comme enfants, comme tes enfants, nous voulons vraiment te demander de nous apprendre à faire ta volonté, à choisir comme critère de nos choix ta volonté. Apprends-nous, Seigneur, à comprendre ton plan, ta volonté pour nos vies. Apprends-nous à comprendre ta volonté selon ta parole. Apprends-nous à marcher dans tes voies. Seigneur, que nous ne soyons pas des hommes, des femmes qui marchons en se disant « ça me plaît, ça me fait plaisir, ça fait plaisir à mes amis, ça fait plaisir au monde », mais que nous soyons des hommes et des femmes qui disent « ça fait plaisir à Dieu, c'est la volonté de Dieu ». Apprends-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Et que ta volonté soit notre préoccupation suprême. Il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, Seigneur, qui sommes présents. Nous te prions dans nos cœurs, te demandons de renouveler en nous cette intelligence spirituelle, cette sagesse spirituelle qui vient de toi, pour que nous soyons des adultes dans la foi, capables de faire pleinement ta volonté. Béni sois-tu notre Dieu, parce que tu nous exauces. Amen. Amen.